séquence pour comprendre et débattre avec Paul Masson. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes formateur d'adultes, membre de Culture et Liberté à Arras et puis membre d'Attaque. Alors aujourd'hui, la crise du CPE vous a inspiré une séquence sur le thème « Démocratie et logique libérale ». Alors c'est l'occasion pour nous hein, de faire un bond dans le temps, de reparler de l'histoire de la démocratie en France et puis du rapport qu'elle a pu entretenir avec le capitalisme.
Oui, effectivement, autour de la crise du CPE, on s'aperçoit pour une nouvelle fois qu'on a à la fois une expression populaire forte qui dit « on ne veut pas » du modèle qui nous a imposé, de la même manière qu'on l'avait vu au moment des retraites, au moment du traité constitutionnel européen, et maintenant on retrouve ça, et en même temps on a ce modèle du capitalisme libéral qui s'impose à une société qui n'en veut pas. Donc ça pose le problème de la démocratie. En France, en Europe, on peut dire, pour nos générations, pratiquement pour tous ceux qui sont vivants pour l'instant, la démocratie apparaît comme la valeur du capitalisme. Disons, quand, dans un système capitaliste, la démocratie, ça fait partie du système. Et ça apparaît comme une valeur fondatrice de la société. Les gens, ils tiennent à la démocratie sous ces deux dimensions. À la fois, le droit de vote lors des élections libres, et qui reviennent à intervalles réguliers. L'intervalle régulier, il est fixé dans la Constitution. Et cette Constitution, elle est élaborée par le peuple, par des représentants du peuple. C'est même une des choses qui avait posé problème au moment du traité constitutionnel, de dire on va nous imposer une constitution européenne alors qu'on n'a élu personne pour la mettre en œuvre. Donc les gens, la majorité, la totalité on peut dire, tiennent à la démocratie par les élections libres. Les gens tiennent aussi au deuxième pilier de la démocratie, qui est les droits du citoyen, la liberté d'expression, la liberté d'organisation, pouvoir manifester, le droit de grève, le droit de se syndiquer. C'est du domaine, on peut dire que c'est du domaine de l'acquis et qui semble acquis dans le cadre de la démocratie. Si on regarde l'histoire, ça n'a pas toujours été ainsi.
Alors justement, oui, on va revenir à l'histoire française. Hein. Comment la démocratie se met en place en France, notamment par rapport au droit de vote? Est-ce que la révolution de 1789, est-ce que de cette révolution de 1789 découle directement le droit de vote?
Alors, en 1789, un problème va se poser. Ceux qui font la révolution, si vous vous rappelez vos souvenirs scolaires, on parlait de la noblesse, du clergé et du tiers-état. Dans l'Ancien Régime, c'était la noblesse qui décidait et le clergé qui justifiait ses règles. Ils étaient de droit divin, le roi tenait sa légitimité de Dieu, il y avait un ordre établi et le roi était maître absolu dans une structure hiérarchique. Avec 1789, si on remet en cause ça, il y a nécessité de convenir d'un autre modèle. Mais si on regarde ceux qui font la révolution en 1789, le tiers-État, comme on disait à l'époque, on va s'apercevoir que le tiers-État est loin d'être homogène. Dans le tiers-État, on a d'une part ceux qui produisent, on va avoir les paysans, on va avoir les artisans, on va avoir les premiers ouvriers des manufactures, qui étaient loin d'être les populations les plus importantes, on va avoir les domestiques, les manouvriers, comme on parlait à l'époque, pour parler de ces salariés qui faisaient le tour des campagnes, essayaient de trouver un petit boulot en permanence. Et puis, parmi les forces qui ont fait la révolution, il n'y avait pas seulement ceux qui produisent, il y avait aussi ceux qui vivaient de l'échange ou ceux qui vivaient de la propriété dont ils disposaient. C'était à la fois la grande bourgeoisie, les fermiers généraux, c'était des hommes de finance, les banquiers, les grands marchands. Et puis il y avait les hommes de loi, les notaires, les avocats, les petits commerçants et les rentiers qui vivaient, ils disposaient de la terre et ils vivaient des revenus de leur terre. Donc il va falloir se donner une règle de fonctionnement. Et dès le début, le droit de vote va être posé. Mais en 1789, quand on regarde les élections, on n'est pas sur la base du suffrage universel. La loi de droit de vote est liée au vote, ce qu'on a appelé le vote censitaire. censitaire, ça veut dire n'avaient le droit de vote que ceux qui payaient le cens. Le cens, c'était l'impôt de l'époque. C'est-à-dire, en 1789, quand on met en place la démocratie, on ne met pas en place la démocratie telle qu'on l'entend là. On met en place un système qui permet à ceux qui possèdent la richesse de pouvoir décider, mais uniquement entre eux. Le suffrage universel, pour reprendre la formule du suffrage universel, il faut attendre 1848. C'est-à-dire qu'il va y avoir un demi-siècle pendant lequel il n'existe pas. Et en 1848, c'est pas parce que ceux qui payaient le cens se sont dit « élargissons à l'ensemble du peuple ». C'est parce qu'en 1848, peut-être vous en avez encore quelques souvenirs, il y avait ce qu'on appelait les journées de février ou la révolution de 1848, qui a eu des effets très forts, entre autres, sur Paris, où le peuple de Paris s'insurge. Et c'est ce peuple de Paris s'insurgeant qui va imposer le suffrage universel. À cette occasion-là, il va aussi réussir à obtenir le droit d'association, un premier droit d'association. On avait le droit de faire des clubs, ce qui était interdit jusque-là, qui sera d'ailleurs très vite remis en cause, puisque dès la fin de 1848, ce droit n'existait plus. Donc le suffrage universel n'est pas inhérent à la société libérale, il est le fruit de lutte. Et même quand on parle de suffrage universel pour 1848, ce qui est d'ailleurs comme ça que c'est indiqué dans les livres d'histoire, on oublie qu'en 1848, le suffrage universel oubliait la moitié des populations, puisque les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et le droit de vote pour les femmes, il va falloir attendre la libération. Le droit de vote pour les femmes est un acquis à la fois de la résistance, qui dit on n'a pas libéré le pays pour rien, on a volonté de mettre en place sur le territoire un droit pour tous les habitants du territoire, c'est un acquis de la résistance, et c'est un acquis aussi de la lutte des femmes précédentes à l'échelle mondiale. Entre les guerres, avant la dernière guerre, il y a eu un certain nombre de luttes de femmes qui ont permis que ce soit repris dans le programme du Conseil de la Résistance et que ce soit mis en place en 1945. C'est-à-dire que 1945, 1789, un siècle et demi après, il a fallu un siècle et demi pour que la moitié des personnes puissent avoir droit de vote. Une autre illustration de ce droit de vote que peut-être certains ne se rappellent plus. Le premier maire de Paris élu par les Parisiens s'appelle Jacques Chirac. Il ne date pas de 1789. La première fois que les élections ont lieu à Paris pour élire le maire et le conseil municipal, c'est en 1977. Quand on a mis en place les élections municipales, on a fait une exception pour Paris. Pourquoi ? Pourquoi une exception pour Paris ? Parce que Paris avait fait 1789. C'était le peuple de Paris qui s'était révolté en 1848. Parce que en 1871, la commune de Paris est faite par le peuple. Et que c'est bien évident que la bourgeoisie ne veut pas de ça. Conclusion, pour la ville de Paris populaire, eh ben, on fait une exception à la démocratie au niveau des municipales. Et la ville de Paris est gérée par, d'une manière indirecte, par les services de l'État. Alors pourquoi en 1977 on va avoir un maire de Paris alors qu'on l'avait pas eu jusque-là? Parce que en 1977 le problème du peuple à Paris a été réglé par l'urbanisme. En 1977, les populations dangereuses pour la bourgeoisie ne s'y trouvaient plus, elles se trouvaient dans les banlieues. Au contraire, la ville de Paris était acquise à ceux qui avaient de l'argent. Donc ça, c'est une autre illustration que la démocratie n'est pas évidente en soi. Dernier exemple que je voulais prendre, c'est le droit de vote des immigrés. Actuellement, je pourrais prendre un exemple précis d'une dame que je connais, qui a plus de 70 ans, qui est née en Pologne, qui est venue en France à l'âge de 3 mois, qui a passé toute sa vie en France, qui n'est jamais allée de sa vie en Pologne, n'a jamais voté. Elle n'était pas française. Elle a voté à aucune élection de toute sa vie. Et le vote des immigrés, François Mitterrand l'avait mis dans son programme avant 81, il ne l'a jamais mis en œuvre. Il n'a pas été mis en œuvre, il n'y a pas eu le rapport de force suffisant.
Alors, vous vous présentez, vous vous dressez un peu un tableau noir de la démocratie française. On a l'impression que, selon vous, disons que l'État a peur de son propre peuple et puis qu'il est dominé par une classe sociale bourgeoise, voire dominé par le grand capital.
En fait, ce que je veux faire remarquer, c'est que la démocratie n'est pas une valeur en soi. La démocratie est née de tensions entre différentes forces sociales. Et parmi ces différentes forces sociales, l'État est une des composantes des forces sociales. Selon les moments, il va plus ou moins favoriser la démocratie, dans un sens ou dans l'autre, selon les forces sociales qui sont en jeu. Concernant le CPE, si on revient sur le CPE, qu'est-ce qui fera qu'il y aura le CPE ou pas? Qu'est-ce qui fera qu'on va aller vers une société avec de plus en plus d'insécurité pour les travailleurs ou vers une société plus juste? Eh bien, ce n'est pas la démocratie qui le déterminera. C'est le rapport entre les forces. Ce que je veux faire remarquer, c'est qu'il ne faudrait pas croire que la démocratie est une valeur acquise définitivement. La démocratie est le fruit d'une conquête, elle s'est acquise dans les luttes et elle n'est pas inhérente au capitalisme.
Paul Masson, merci. On va peut-être parler du programme de la prochaine séquence pour comprendre et débattre. Donc la semaine prochaine, mardi prochain, dans Info30.
Alors, la semaine prochaine, je voulais revenir sur le deuxième aspect de la démocratie. J'avais expliqué lors d'une séance précédente que la démocratie reposait sur deux pieds. D'une part, le droit de vote régulier, à intervalles réguliers, dans le cadre d'un cadre constitutionnel qui a été fixé. Et d'autre part, que la démocratie était liée au droit d'un certain nombre de droits pour l'ensemble des citoyens, qui étaient la liberté d'expression, la liberté d'organisation. Et ça serait sur l'axe, le deuxième axe, les droits des citoyens, que je vais revenir un petit peu sur l'histoire pour voir comment ça s'est construit et où on en est maintenant. Et on essaiera aussi d'avancer au niveau de l'histoire, de comprendre comment ça se fait que les patrons, les chefs d'entreprise qui craignent le peuple lors des élections, qui souhaitent au maximum limiter l'organisation des travailleurs en évitant qu'ils s'organisent parce que ça favorise pas leur rapport de force à leur faveur, en soit venu à dire, mais la démocratie nous paraît un bon système. On essaiera de comprendre ça la prochaine fois.